Every day. Anywhere. Anytime. The Digital Gospel Channel. Ebenezer International. Your station. Nous vous proposons d'écouter.
Oui, brièvement, ça va être peut-être difficile, mais je vais essayer de résumer tout ça. Bon, moi, je suis issu d'une famille qui était pratiquante et qui a fourni, je dirais, à l'Église des prêtres, des religieux,
une vie,
des missionnaires.
Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, messieurs, bonjour et merci de choisir la radio chrétienne Ebenezer International, cette station qui met tout en œuvre pour vous aider à trouver de bonnes nourritures pour votre vie spirituelle. Franck Doristil est bien le nom de celui qui vous parle depuis son home studio situé en France métropolitaine dans le Val d'Oise, bien sûr. Ce m'est une grande joie aujourd'hui, chers auditeurs, de pouvoir vous présenter dans cette édition de Une vie, une histoire, M. Denis Guillaume, un tout nouvel ami de votre radio. Il est le directeur de la librairie chrétienne C'est ici et des éditions Empreinte, situées en plein cœur de Paris. L'interview qu'il nous a accordée pour ce programme a été réalisée pour une édition socio-culturelle, mais compte tenu de la teneur très spirituelle de la première partie, nous avons décidé de l'utiliser dans ce programme de témoignage. Quant à la deuxième partie, vous l'écouterez dans une prochaine édition de Sociopod. J'ai l'assurance que vous garderez l'écoute, tout en appréciant les différentes sélections musicales de nos artistes chrétiens qui ne manqueront pas de vous plaire. Buongiorno a tutti ed a tutte, cari amici ascoltatori della Radio Cristiana Ebenezer International. Sono molto lieto di poter ritrovarvi per trascorrere insieme questo momento di costruzione spirituale. Sono Franck Doristil, il vostro amico pastore che vi parlo della Francia metropolitana. Abbiamo oggi la gioia di presentarvi in questa edizione di Una vita, una storia, il signor Denis Guillaume, direttore della libreria cristiana e delle edizioni Empreinte. Malgrado il fatto che la trasmissione sia in francese, ora certezza che vi farà molto piacere. Soprattutto gli amici della lingua francese. Hello and welcome on the Digital Gospel Channel. I'm just thankful that the Lord let me be one more time your podcaster. It's a great privilege. I just want to begin this program with some deeply personal words to ensure you of our consideration and our gratefulness to the Lord who have entrusted us this ministry. Don't forget to tell all your friends and relatives to join us at www.frankradio.podomatic.com www.frankradio.podomatic.com. It's a new edition of Une vie, une histoire. And our guest today is Mr. Denis Guillaume. He will share with us his testimony. Stay in tune as you are listening to the very nice music selected for your pleasure. Je vous rappelle que vous suivez l'émission Une vie, une histoire sur votre radio et juste avant d'accueillir M. Denis Guillaume, Écoutons celle qui sera notre invitée dans la prochaine édition de Mikonak. C'est bien l'artiste Barbara Kelly dans un chant de reconnaissance au Seigneur intitulé Gratitude. Gratitude. Je vous souhaite une agréable écoute. Une vie, une histoire. C'était l'artiste Barbara Kelly des États-Unis d'Amérique que nous accueillerons dans une prochaine édition de Mikonak, un chant de reconnaissance au Seigneur. Gratitude. Après ce beau chant, c'est le moment d'accueillir notre invité qui va nous parler de quelques-unes de ses expériences avec le Seigneur Jésus-Christ. Monsieur Denis Guillaume, c'est vraiment une joie de vous accueillir dans ce programme qui permettra à nos auditeurs de faire votre connaissance et surtout d'avoir des nouvelles fraîches concernant les publications chrétiennes de nos jours. Je vous salue bien fraternellement tout en vous souhaitant la bienvenue sur nos ondes.
Merci, c'est un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. J'écoute moi-même la radio sur mon ordinateur de temps en temps et j'en éprouve un grand plaisir.
C'est très encourageant de l'entendre, frère Denis Guillaume. Je crois que vous êtes le mieux placé pour vous présenter vous-même, en dépit de votre modestie particulière. Qui est donc Denis Guillaume ?
Ah, mais qui le sait ? Sûrement pas moi. C'est très difficile, évidemment, de se définir. On risque toujours de se réduire à une courte définition. Mais si je devais me définir, je dirais que je suis un homme en marche, qui de temps à autre s'immobilise, qui de temps en temps se fatigue, qui parfois se trompe de route, mais qui continue à marcher. Donc c'est le moteur de mon existence. Je pourrais vous dire davantage qui je suis plus précisément, mais si je dois me définir, c'est vrai, c'est plutôt dans le sens d'une marche. Je considère ma vie comme un cheminement qui, je le pense, va dans une certaine direction dont on parlera peut-être encore tout à l'heure.
Denis Guillaume, marié, père de famille, vous êtes de quelle région de la France ?
Moi, je suis originaire de la Franche-Comté, de l'est de la France, et je suis ici à Paris depuis une quinzaine d'années. Mais je suis franc-comtois, frontière de la Suisse.
Franche-Comté, qu'est-ce qui fait la particularité de cette région de la France ? Je sais que toutes les régions françaises sont belles, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette région ?
C'est une région qui était rattachée à la France à l'époque de Louis XIV. Donc c'est une région qui est restée assez indépendante, qui était auparavant relativement indépendante sous la domination de l'Espagne, mais qui était relativement indépendante. Et il y a un caractère comtois qui est marqué par une certaine indépendance d'esprit. Et on s'est assez douloureusement rattaché à la France avec son centralisme. Donc on a gardé peut-être ce caractère. Sinon, c'est une région assez verdoyante avec la vallée du Doubs qui est très belle et puis la semi-montagne du Jura qui se trouve là. Et sinon, il y a une partie de la région qui est industrialisée, qui est le pays de Montbéliard avec les usines Peugeot. Donc c'est une région qui est relativement variée.
Relativement variée. Alors je reviens sur ma question, votre état civil.
Alors je suis marié, oui. Depuis très longtemps déjà maintenant, 35 ans, et j'ai deux enfants, un garçon qui est photographe professionnel, qui habite ici à Paris, et une fille qui termine ses études de médecine à Marseille. Donc ils ne sont plus à la maison. Donc j'ai une vie plus calme et très disponible. Mon temps est libre pour le travail et pour toutes sortes d'activités paraprofessionnelles.
Un père de famille heureux, comblé et surtout attaché à la saine doctrine, la parole du Seigneur.
Alors oui, je pense attaché en tout cas au sens que cette parole me révèle et à toute la richesse qu'elle recèle et qui permet d'avoir une vie qui n'est pas une vie plate, qui n'est pas une vie sans espoir. Oui, cette parole me nourrit. Je suis attaché.
Monsieur Denis Guillaume, notre invité, je ne dirai pas aux auditeurs par quels moyens on s'est lié d'amitié, mais je pense qu'ils vont trouver quand même la réponse, parce qu'actuellement, avec l'Internet, c'est facile d'avoir des amis, et surtout de vrais amis qui marchent avec le Seigneur. Ça, c'est super, hein?
Oui, en effet. C'est en effet sur Internet que nous avons fait connaissance, en fait, grâce à Facebook et grâce à cette émission, cette radio Ebenezer.
Amen. Tout le reste de l'émission sera consacré au livre, selon votre souhait. Mais vu que nous aurons suffisamment de temps pour le faire, merci de nous parler, même brièvement, de votre découverte de la foi chrétienne.
Oui, brièvement, ça va être peut-être difficile, mais je vais essayer de résumer tout ça. Bon, moi, je suis issu d'une famille qui était pratiquante et qui a fourni, je dirais, à l'Église des prêtres, des religieuses, des missionnaires qui sont partis en Chine et partout. Donc, j'ai baigné dans une culture chrétienne. Mais qui pour moi s'est révélée plutôt étouffante, décevante, Je crois que j'ai eu un petit moment de foi lorsque je devais avoir 12-13 ans, où là, je me suis confessé et tout à coup, je me suis senti très léger. Mmh. Et là, je me dis, ah, c'est formidable, j'ai trouvé quelque chose. Mais ça n'a pas duré. Et je dirais que globalement, la religion telle que je l'ai côtoyée dans ma jeunesse m'a beaucoup déçu. Et j'ai fait même profession d'athéisme militant dès l'âge de 14 ans jusqu'à l'âge de 20 ans. Un athéisme agressif parce que, la religion m'a beaucoup déçu. Mais il se trouve que j'étais quand même curieux de ces questions et que j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui, elle, avait peut-être dépassé ce problème dans lequel je me trouvais. Et j'ai rencontré un ami qui lisait la Bible. J'étais très étonné de voir ce livre, la Bible, que je connaissais mal. Et je lui ai demandé de me parler de Dieu, mais avec beaucoup de hargne, beaucoup d'agressivité. Parce que je pense que derrière ma colère, il y avait une recherche, mais j'en étais pas du tout conscient. Mmh. Et j'avais l'impression de le titiller avec mes questions, de le provoquer. Mmh. Et lui m'a fait une réponse, ce garçon, qui est une réponse. Il m'a dit, écoute, tu me casses les pieds, pour tout dire. Si tu t'intéresses à Dieu, demande-lui. Directement, moi je ne peux pas te répondre. Et il s'est dit comme ça, je me suis débarrassé de lui, il a pensé qu'il serait tranquille. Et moi, cette réponse qu'il m'a faite m'a perturbé, quoi, en fait. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Il se trouve que à cette époque-là, j'avais une vie un petit peu difficile, de jeune un petit peu qui n'était pas très structuré. Oui, j'étais en grande difficulté psychologique, en fin de compte, et morale. Mmh. Et un soir de Noël, j'étais seul dans ma chambre. Tout le monde était allé faire la fête, mais moi, j'étais seul ce soir de Noël. Et je me suis souvenu de ce que cet ami m'avait dit. Et j'ai fait une prière. Je me suis lancé comme ça, comme un fou. Et j'ai dit, Dieu, si tu existes, prouve-le-moi. Prouve-le-moi maintenant. Et je l'ai dit avec plus d'intensité que ce que je vous dis là. Je l'ai dit avec plus de force, mais je ne veux pas le rejouer. Et à ce moment-là, écoutez, il s'est réellement passé quelque chose. Alors, ça me fait penser à cette phrase de Paul, « Est-ce dans mon corps ou hors de mon corps ? Je ne sais. Mm-hmm. » Et moi, je dirais, est-ce que c'est une expérience psychologique ? Comme on me l'a dit, est-ce que c'est autre chose qui s'est passé ? Je ne le sais pas, Dieu le sait. Toujours est-il qu'à la suite de ce... Qu'est-ce qui s'est passé ? Peut-être il faudrait que je le précise. Eh bien, c'est difficile à décrire, mais à la suite de cette prière, j'ai senti une émotion qui m'a envahi, et cette émotion, c'était une paix très très forte, très profonde. Et puis, j'ai vu ma vie, tous les épisodes de ma vie passée qui défilaient comme ça, et un certain nombre de choses dont j'étais très fier jusque-là, moi, j'ai fait ceci et cela. Je les voyais avec un autre regard, et je disais quelque chose, à chaque épisode qui passait, je disais pardon. Mais je n'étais pas accusé, je ne me sentais pas du tout accusé, je me sentais au contraire, c'était l'inverse, c'était... le regard que je sentais porter sur moi, qui était un regard complètement plein d'amour et apaisant, qui me faisait voir ce que j'avais fait de cette manière. Et je disais, pardon, 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 pardon. Et puis, à la suite de ça, une paix terrible, formidable, un apaisement de la vie. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi ? Est-ce que c'est Dieu qui m'a répondu ? Il s'est vraiment passé quelque chose. Et je crois qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Quand je l'explique à quelqu'un qui n'est pas spécialement croyant, je ne peux pas dire c'est Dieu, ça ne veut rien dire pour lui comme ça, mais j'ai fait une prière à Dieu, et voilà ce qui s'est passé, ça je peux le dire, en fait je suis un témoin de ça, je ne souhaite pas nécessairement épiloguer là-dessus, expliquer, je ne peux pas l'expliquer de toute façon. Toujours est-il qu'à la suite de cette expérience, évidemment, ma vie a pris une autre perspective, c'est-à-dire que j'ai dû réapprendre à vivre. C'était parfois long, parfois douloureux, ça a duré, ça dure peut-être encore, où j'ai, à la lumière de cet amour et de ce regard posé sur moi, j'ai reconstruit ma vie différemment, sur des bases autres. J'ai commencé à lire l'Évangile et la Bible, texte que je ne comprenais pas avant, parce que j'avais commencé, j'avais une Bible que je feuilletais comme ça, dans la période qui avait précédé cette expérience, et je n'y comprenais rien. Et lorsque, à la suite de cette expérience, j'ai repris la Bible et que je l'ai lue, j'avais l'impression de tout comprendre, que tout me parlait, que c'était un univers que je comprenais. Bref, il y a un lien clair entre la Bible, cette parole de Dieu, et cette expérience que j'avais faite. Ça m'avait ouvert à ce texte, pas à d'autres textes. J'ai pu relire d'autres textes qui ne me parlaient pas davantage, mais ce texte-là me parlait, donc il y avait bien un lien. Donc, j'ai fait le lien en me disant, mais il y a un lien, c'est Dieu, la Bible, le Christ, enfin tout ça, c'est un ensemble. Et voilà ma découverte, voilà comment ça a commencé, et voilà comment ma vie a pris une direction différente.
L'une des choses que je souligne et que je n'oublierai jamais, c'est cette expérience de paix, cette paix inexprimable, inexplicable qui vous a traversé. Et ça me fait penser à un verset de l'apôtre Paul, c'est dans Philippiens 4. La paix et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Monsieur Denis Guillaume, notre invité, qu'est-ce qui vous a conduit dans le ministère puisque vous avez aussi travaillé comme pasteur et aumônier des hôpitaux pendant bien des années?
Oui, écoutez, à la suite de cette expérience, je ne pouvais plus envisager ma vie de la même manière. C'est-à-dire que quand on vit quelque chose comme ça, très naturellement, on se dit, je ne peux pas consacrer ma vie à autre chose. Enfin, il y a comme un appel à... C'est trop fort, quoi. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Soit c'est vrai ce qui s'est passé, dans ce cas-là, ça bouleverse tout, ou alors ce n'est pas vrai. Donc, je crois qu'à la suite de ça, je me suis dit, ma vie, il faut qu'elle s'engage dans cette direction. Ensuite, j'ai rencontré, bien sûr, j'ai fréquenté une église, où s'est confirmé un petit peu ce désir d'être ce qu'on appelle nous au service de Dieu ou dans le ministère. Ça s'est fait progressivement, mais il y a eu plusieurs étapes qui m'ont confirmé dans le fait que c'était bien cette voie qu'il fallait que je suive. Et je me suis très vite d'ailleurs engagé dans l'église. Et au fil du temps... ça m'a conduit progressivement vers un ministère qui s'est exercé pendant un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, je ne suis plus dans ce ministère-là, mais je crois que je n'ai pas abandonné, comme parfois on pourrait le penser, ma vocation, mais elle a pris une autre direction, parce que la vie, c'est un mouvement, comme on le disait tout à l'heure, et je pense que nous sommes tous en marche, et que ce n'est pas parce que nous avons été ceci que nous le serons toujours. Moi, je vois les choses ainsi.
Quel souvenir avez-vous donc de ces années dans le ministère, dans ce ministère particulier, parce que vous y êtes encore, dans un autre domaine, mais toujours dans le ministère.
C'est une impression avec le recul, parfois un peu mitigée. Je me dis que j'étais bien jeune. Si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, j'aurais sûrement été meilleur. Il y a deux étapes. Il y a où j'étais pasteur d'une communauté, d'une paroisse ou d'une église, et puis l'étape où j'étais aumônier des hôpitaux. Ce sont deux choses que j'ai vécues différemment. Il y a deux choses. Enfin, dans le travail de pasteur, c'est un travail exigeant. C'est un travail où on ne voit pas toujours le résultat de ce qu'on fait. C'est jamais quantifiable. On construit, ça se détruit, on recommence. Bref, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile. J'ai eu beaucoup de joie dans ce travail à certaines époques et à d'autres ça a été plus difficile où je me dis mais je n'y parviens pas et puis il y avait cet aspect qui me déplaisait c'est que j'avais l'impression que les gens qui venaient le dimanche ou à l'étude biblique venaient consommer quelque chose et que j'étais dans le devoir de donner quelque chose de toujours plus fort, mieux, plus... Et ça m'a un petit peu... Je me suis dit, mais attends, on est en pleine consommation de spiritualité et moi, je suis le fournisseur. Et ça, bon, c'est peut-être un jugement sévère que je porte sur mes amis qui étaient là devant moi, mais je me dis, est-ce que ça a mis aussi leur vie en mouvement? Est-ce que ça a porté vraiment du fruit? Est-ce que c'était pas une sorte de consommation de spiritualité? Ça fait partie de ma crise, je dirais, de conscience, qui a fait que j'ai dirigé mon ministère plutôt vers quelque chose de plus concret, qui était l'aumônerie, si je le compare au travail pastoral en paroisse, quoi, ou en communauté, ou en église. Autre chose aussi, c'est que lorsqu'on est pasteur, on est en charge d'une communauté et on est en charge de sa structure, donc on doit sans cesse... renforcer leur foi bien sûr, structurer leur pensée, leur foi, mais ça nous empêche, nous en tant qu'individus, pasteurs, de progresser individuellement sans risque de mettre en danger la communauté. Moi je suis un peu un kamikaze de la foi, c'est-à-dire toute ma vie j'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai pris des risques et je ne voulais pas entraîner une communauté dans cette recherche qui était encore un approfondissement personnel, parce que j'espère que les pasteurs, mes ex-collègues et collègues d'aujourd'hui, sont comme moi, c'est-à-dire qu'ils ne se disent pas « ça y est, j'ai un poste, maintenant je vais remplir cette fonction et je ne bouge plus », qui eux aussi sont en recherche et en approfondissement, et que parfois ça les déstabilise. Moi, je ne voulais pas déstabiliser une communauté, donc à un moment donné, j'ai dit « non, il vaut mieux que je fasse autre chose ». Donc ça, voilà, c'est... Je personnalise un petit peu ce travail, donc peut-être que j'ai tort, mais... Je considère que le chemin individuel, c'est essentiel dans une vie et il faut savoir bouger si on n'est plus tout à fait adapté au rôle qu'on tient. Voilà.
Et comment résumeriez-vous votre marche avec le Seigneur pendant cette période ministérielle ?
C'était une marche, en effet. J'ai beaucoup changé du moment où je suis arrivé ou du moment où je suis parti. J'ai appris à ne pas être autoritaire, par exemple, parce que lorsqu'on est jeune et plein de convictions, eh bien, on a peut-être tendance, avec la communauté, à se prendre pour le chef et à faire preuve d'autorité, et puis on se prend très au sérieux. Bon, tout ça, c'est la vie qui se charge de nous l'apprendre, et le Seigneur aussi, puisque, bien sûr, il se sert de toutes ces expériences pour nous faire mûrir et grandir. Donc, c'est un chemin... je pense que j'ai mûri, j'ai progressé. Les autres m'ont quand même beaucoup apporté parce que c'était une période où on est proches les uns des autres, où on partage beaucoup. J'ai appris aussi beaucoup sur la façon de gérer un groupe. Qu'est-ce qu'un groupe ? J'ai dû le découvrir parce qu'on n'apprend pas ça en faculté de théologie. Comment se gère un groupe ? La psychologie du groupe, les relations interpersonnelles, tout ça, j'ai dû l'apprendre sur le terrain. Et je pense que je suis sorti de cette expérience, oui, en ayant beaucoup appris.
Nous allons prendre notre première pause musicale. Je vous propose d'écouter un titre de l'artiste John Featherstone. Vous connaissez bien cet artiste ?
Je le connais, bien sûr, oui.
De nom ?
Je l'ai entendu, oui. Mais je ne le connais pas personnellement.
L'artiste John Featherstone dans Moi,
y a
ça
des
va.
Gens qui ne seront
Bonne
jamais
écoute à toutes et à tous.
Contents.
Une vie, une histoire.
Qui aurait préféré que tout soit autrement ? Puis font la gueule quand on propose un changement. Moi ça va, ça va, ça va, ça va. Je me demande bien pourquoi ça n'irait pas. Mais même si ça n'allait pas, je ne Dans la vie, des fois, faut dire c'est comme ça, c'est comme ça. Et quant à l'avenir, ben, qui vivra verra. Façon, y a rien à faire. Qu'est-ce que sera, sera.
Moi, moi, moi.
À vous.
Moi, ça va, ça va, ça va, ça va.
Ma foi, je me demande bien pourquoi ça n'irait pas. Mais ça va. Et même si ça n'allait pas, je garde. Ça va. Ouais, ça va. Tu me demandes à moi pourquoi ça n'irait pas. Ça n'engage que moi. Mais moi, ça va.
Moi, ça va, ça va.
Oh yeah.
Moi, ça va.
C'est cela.
Moi ça va, ça va.
Je vois.
Moi ça va, ça va.
Bien ça me va.
Moi ça va, ça va. Ça va.
Si Dieu attend que je me mette à le chercher, à mon avis, il ferait mieux de se bouger. C'est quand même lui le mieux placé pour me trouver.
Moi ça va, ça va, ça va, ça va. Je me demande bien pourquoi ça n'irait pas. Et même si ça n'allait pas, je le garderai. Ça va, ça va, ça va, ça va. Je me demande bien pourquoi ça n'irait pas. Et même si ça n'allait pas, je le garderai pour moi.
Une vie, une histoire.
Monsieur Denis Guillaume, notre invité, pour entrer dans le vif du sujet, comment êtes-vous entré dans le monde du livre, puisque vous êtes responsable d'une librairie chrétienne très connue en Île-de-France et même en France entière?
Oui, 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 je m'occupe de cette librairie depuis une quinzaine d'années. Alors comment suis-je entré dans le monde du livre? J'aurais envie de dire presque à la naissance. J'ai habité très tôt chez mes grands-parents et mon grand-père possédait une grande bibliothèque héritée de ses ancêtres avec des livres en grec, en latin et en toutes sortes d'autres langues. Et pour moi, c'était le livre a toujours représenté une boîte à mystères en quelque sorte et a toujours suscité ma curiosité. Et très jeune, j'ai toujours, pour autant que je me souvienne, j'ai toujours lu et aimé les livres. Maintenant, je suis venu au livre chrétien qui nous occupe aujourd'hui, peut-être en redécouvrant la Bible. Ce livre est autour de ce livre parce que assez rapidement, lorsque je suis devenu ou redevenu chrétien, j'ai eu besoin d'approfondir et de mieux comprendre tout ce qui se passait autour de ce livre, la Bible, et autour de l'idée de Dieu. Donc j'ai beaucoup lu à ce moment-là, et dans l'église que je fréquentais, très rapidement, on m'a confié le soin de m'occuper du stand de livres, qui était, pour l'époque, bon, ça fait quand même une trentaine d'années, enfin, c'est ce qui s'est passé là il y a 35 ans, ça c'est... Il y a déjà une trentaine d'années, il n'y avait pas les livres qu'on trouve aujourd'hui. Il y avait assez peu de librairies chrétiennes et on y trouvait, 200 titres et puis c'était fini. Il y avait très peu de choses. Mais je me suis occupé du stand de livres. Donc, je lisais et j'aimais ses livres. Lorsque j'étais pasteur, j'ai beaucoup lu, évidemment, pour renouveler un petit peu ma pensée, ma prédication, donc toutes sortes de livres également. Et puis, alors que j'étais encore pasteur, avec un ami, nous avons décidé de publier un livre, son livre. Il faut dire que les communautés dans lesquelles j'étais à cette époque-là avaient également des petites librairies en annexe de l'église. Et ce collègue m'a demandé si je voulais publier son livre. Voilà, bon, oui, non, on va voir combien ça coûte, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on va faire. Bref, on a dit oui. Et on a signé un petit contrat sur une table de café à quelques pas de l'imprimeur. Et on s'est dit, on y va. Et on a publié son livre. Donc cet ami, c'était Jacques Poujol. Et ce livre s'appelait « L'équilibre psychologique du chrétien ». Mmh. Et ce livre est sorti il y a 25 ans. Et on le vend encore aujourd'hui. et donc on a publié ce livre qui a eu un grand succès. Puisque la première année, on en a publié 7000 exemplaires qui se sont vendus en une seule année, ce qui n'arrive plus aujourd'hui. Donc, fort de cette expérience, nous avons publié un deuxième livre, qui est un livre de témoignage, et puis qui a bien marché. Alors, nous avons pris l'avion, je crois, à cette époque. Nous sommes allés à la foire de Francfort, la foire internationale du livre. Nous avons rencontré les éditeurs du monde entier. Et là, nous avons commencé à faire nos petites emplettes pour traduire des livres en français. Et ça a débuté comme ça. Donc et nous avons lancé une maison d'édition qui s'appelle Empreinte, temps présent, ce qu'on appelle les éditions Empreinte, et qui existe depuis 25 ans, et pour lesquelles je travaille encore aujourd'hui. Et c'est... donc vous voyez que le livre est un univers dans lequel je baigne depuis longtemps. Et c'était cette librairie dont je m'occupe aujourd'hui, qui s'appelle C'est ici à Paris, qui était le distributeur des livres d'empreintes, puisque nous préparions les livres, nous les publions, mais il fallait quelqu'un pour les vendre, et nous les avions confiés à cette librairie. Et lorsque le directeur a souhaité quitter la librairie ici, il s'est dit, tiens, il y a une personne qui est pas mal, ce serait bien qu'elle vienne ici, et il m'a demandé si je voulais prendre la suite pour diriger cette librairie. Donc j'ai gardé une part de mon activité pour les éditions et une part pour la librairie. Et cette sollicitation que j'ai reçue pour venir ici s'est déroulée à l'époque où justement je me disais, est-ce que je vais continuer dans le ministère pastoral ou est-ce que je vais prendre une autre voie? Et j'ai réfléchi et prié pendant une année. Et puis il s'est avéré que c'était cette voie qu'il fallait que je choisisse et j'en suis encore là aujourd'hui.
Vous n'êtes pas le fondateur de la librairie C'est ici, mais vu votre responsabilité, vous connaissez quand même son histoire. Pouvez-vous nous la résumer en très peu de mots?
Oui, en quelques mots. Eh bien, cette librairie est née, pas hier, en 1947, après la guerre. Et elle était créée par un pasteur baptiste qui s'appelait Henri Vincent et qui était un homme d'action, un homme de vision et un homme de projet qui a fondé des églises baptistes à Paris et qui avait le souci de la formation intellectuelle et spirituelle des chrétiens et qui a créé cette structure qui s'appelait Société de Publication Baptiste pour éditer des livres et les vendre dans une librairie. Donc, depuis 1947, la librairie était située avenue du Maine, et ensuite elle s'est installée ici. Elle a connu des hauts et des bas, des périodes difficiles et des périodes plus glorieuses, mais elle existe toujours aujourd'hui, et comme vous l'avez dit, fait partie des plus importantes librairies chrétiennes en France.
Et d'où vous viennent ces livres que vous publiez dans cette librairie et selon quels critères sélectionnez-vous les différents auteurs, voilà. Vos auteurs?
Alors, donc, on peut parler de deux choses parce que les livres que je publie sont des livres que je publie dans une maison d'édition. À la librairie, je ne publie pas, mais je prends les livres qui sont publiés pour les mettre à disposition du public, des lecteurs. Donc, en tant que libraire, eh bien, je me tourne vers mes collègues éditeurs chrétiens et dans leur catalogue, je fais mon marché. Mais en fait, je prends quasiment tout. Je dirais pas sans discernement. Mm-hmm. Je ne suis pas en accord personnel avec tout ce que je vends. Mm-hmm. Je ne me considère pas comme le pasteur d'une communauté de lecteurs, mais plutôt comme quelqu'un qui met au service de tous des livres qu'eux-mêmes vont devoir choisir en fonction de leurs besoins. Mm-hmm. C'est-à-dire que on m'a fait reproche parfois de vendre tel autre auteur, parce que ça correspondait pas à la sensibilité de cette personne. Comment pouvez-vous vendre cet auteur? Mais sachez qu'il y a des gens qui veulent cet auteur, qui trouvent que cet auteur est valable, et moi, je ne suis pas le juge. Mmh. Je suis libraire, je suis au service de tous. Donc c'est comme ça que je conçois mon rôle. Si quelqu'un me demande conseil, je donnerai peut-être mon avis, mais surtout j'essaierai de voir où la personne en est dans sa marche spirituelle, mmh, et qu'est-ce qui va correspondre le mieux à son besoin. Mais je ne vais pas choisir à sa place. Je me refuse, et mes collègues font de même, parce qu'on pourrait dire ben non, ça on est d'accord, ça on n'est pas d'accord, mais on n'est plus une librairie, on est une église. Je conçois que dans l'église il y a un enseignement qui soit spécifique à la communauté et qu'on ne souhaite pas que viennent perturber cet enseignement d'autres enseignements que l'on considère comme moins intéressants. En librairie c'est différent, on est au service de tous. Je dirais que des chrétiens, tous les chrétiens peuvent trouver quelque chose chez nous, et bien sûr ceux qui sont en recherche de livres aussi, qui ne sont pas encore chrétiens, oui, ils peuvent aussi bien sûr trouver des livres pour leurs besoins. Mais voilà comment, donc je ne fais pas de tri en quelque sorte, mais j'essaie d'avoir le maximum de choses. Évidemment, il y a des exigences économiques dans une librairie, et évidemment j'aurai davantage les livres qui sont très demandés que ceux que je vends une fois par an. Là, peut-être j'en aurai un en rayon, et puis je l'aurai parce que je tiens à l'avoir, parce que c'est un livre important, mais je sais que je le vends peu. Et par contre, évidemment, on aura beaucoup de livres qui sont faciles d'accès et que tout le monde veut sans cesse. Donc on se situe entre un travail pastoral, parce qu'un libraire, c'est une forme de travail pastoral, puisqu'on contribue à l'édification des chrétiens. Mais c'est aussi une fonction commerciale, c'est-à-dire c'est la responsabilité d'une structure, mmh, et il faut la faire tourner. Et pour qu'elle tourne, eh bien, voilà, on peut vendre des objets ou de la musique ou des choses qui sont peut-être moins nobles qu'un livre.
Et quand vous dites que vous vendez de tout, pour éviter toute confusion, est-ce que cela veut dire, si quelqu'un, par exemple, s'intéresse à un ouvrage traitant du satanisme, de l'ésotérisme, il peut se diriger vers la librairie Satici?
Ah, il peut se diriger vers nous, ça serait déjà un pas. Maintenant, on n'aura pas peut-être de quoi répondre à son besoin. On répondra à autre chose.
C'est bien.
Mais non, bien
vous
sûr.
Vous restez quand même une librairie chrétienne.
Tout à fait. Là, on est spécialisé librairie chrétienne et on ne vend pas des livres religieux en général et surtout pas d'ésotérisme. Non, ce sont des livres chrétiens. Alors, beaucoup de littérature évangélique, au-delà la littérature protestante non évangélique, et au-delà une littérature catholique qui traite d'études bibliques essentiellement. Nous ne sommes pas une librairie catholique et ça se voit clairement. Mmh. Néanmoins, nous travaillons avec plusieurs éditeurs catholiques qui publient des livres d'intérêt général et qui ne sont pas trop marqués ecclésialement, qui sont pour un public qui sont enrichissants pour tous.
Espérons que cette générosité soit réciproque, parce que nous aussi, les chrétiens évangéliques, nous aurions bien aimé voir nos livres s'exposer dans de grandes librairies, même voilà. Des libraires qui ne sont pas forcément croyants évangéliques.
Ben écoutez, en tant qu'éditeur, c'est ce que je vis. Parce qu'aujourd'hui, je vends à peu près autant de livres en dehors des librairies chrétiennes qu'à l'intérieur. C'est-à-dire que là, je ne suis plus libraire, je deviens éditeur. Et dans la société dont je m'occupe, qui s'appelle donc Empreinte, le projet, c'est de vendre des livres chrétiens, d'aspiration chrétienne, à tout public. Mm-hmm. Parce que ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, les frontières sont beaucoup moins marquées en France. La religion ne fait plus, comme elle l'a fait longtemps, un effet de repoussoir. Les gens sont en quête, en recherche de quelque chose. Ils n'ont pas trouvé, on leur a proposé un certain nombre de choses, ça ne les a pas comblés. Je crois que dans la foi chrétienne, il y a de quoi les combler. Et je suis très heureux de vendre des livres et d'aller à la FNAC et de voir les livres que j'ai publiés, d'aller un peu partout en France et de trouver ces livres en librairie religieuse, mais aussi dans un rayon religieux d'une librairie générale. Et ça, c'est une expérience assez nouvelle. Ça fait seulement quelques années que nous parvenons à être comme ça vendus partout. Mais ça, ça correspond à ma vocation, à mon projet, à ma conviction. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les livres chrétiens soient lus par les chrétiens. C'est pourquoi il faut faire des livres chrétiens, mais dans un langage suffisamment clair pour que tout le monde puisse y trouver quelque chose. Ça fait partie des points forts auxquels je tiens.
Sans se livrer à une sorte de sécularisation aveugle.
Voilà, alors il y a toujours le risque, évidemment, de diluer tellement ce qu'on a à dire qu'on ne dit plus rien. Ça, c'est un risque. Je pense que dans ce qu'on vend, il y a des livres qui sont plus légers, c'est vrai, parce qu'il faut... Voilà, il faut entrer. Mais il y a des livres très forts. L'un de nos livres, par exemple, que j'ai sous les yeux, là, de Jacques Poujol, qu'on avait publié il y a quelques années, a été repris par les éditions Marabout. À l'époque, ils l'avaient racheté, les droits, ils en ont vendu comme ça 10 000. À l'éditeur, il dit bah, peut-être qu'on va un petit peu toucher pour. Au contraire, ne touchez rien. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'aspect spirituel de ce livre. Donc, vous voyez, on aurait tendance, nous, à estomper un petit peu ce qu'on a à dire, alors que la demande, elle est intense. Ils veulent une réponse qui soit forte. Ils ne veulent pas une réponse qui soit diluée. Donc, il faut un langage. Il faut trouver un langage qui soit un langage que tout le monde puisse comprendre. Il ne faut pas un langage trop religieux. Par contre, sur le fond, il ne faut pas renoncer, au contraire, ce qu'on a à proposer, on n'a pas à le masquer ni à le cacher, au contraire, on peut le montrer très fièrement, parce que c'est ce qui porte la vie, c'est ce qui donne sens à la vie, c'est ce qui permettra aux uns aux autres de vivre ensemble sans se déchirer. Non, l'évangile, on n'en a pas honte.
Monsieur Denis Guillaume, notre invité à cette nouvelle édition de Sociopod, responsable des éditions Empreinte et de la librairie chrétienne 7 ici, qui se trouve en plein cœur de Paris. Pourriez-vous nous donner un aperçu des grands thèmes abordés dans vos ouvrages, ces ouvrages que vous proposez au public?
Alors, est-ce que nous parlons des éditions ou de la librairie? C'est différent.
Des éditions.
Alors, les éditions Empreinte, nous abordons les choses sous le biais, essentiellement, mais pas seulement, de la psychologie. Parce que, bien évidemment, les gens sont confrontés à des problèmes concrets. Leur problème, c'est pas la spiritualité, ça ne dit rien pour eux. Par contre, ils ont des problèmes très pratiques. Problèmes d'éducation des enfants, problèmes dans le couple, problèmes personnels. Et par le biais de ces besoins, eh bien, nous apportons une réponse qui est en même temps d'ordre psychologique, mais en même temps d'ordre spirituel, parce que nous ne faisons pas de séparation formelle entre ces deux domaines. L'homme, c'est une unité qui est, voilà, chacun le sait, mais faite d'une psychologie, et la spiritualité se greffe sur sa psychologie. Donc l'évangile s'adresse comme ça à la personne, mais la rencontre, l'évangile rencontre la personne dans sa vie concrète et pas simplement comme ça théoriquement, comme une histoire qui viendrait se surajouter à sa vie. Donc les thèmes principaux sont des thèmes de cet ordre, éducation des enfants, le couple, la psychologie personnelle, mais évidemment nous publions aussi des livres sur la prière. Notre plus gros succès est hors librairie chrétienne. C'est un livre qui s'appelle « 52 prières pour femmes actives ». Eh bien, ce livre, c'est notre plus grosse vente partout. En métropole, aux Antilles, en librairie protestante, en librairie catholique, et même en librairie non religieuse. C'est quand même 52 prières, c'est 52 prières pour toutes sortes de situations de la vie. Mmh. Et c'est ça que nous vendons le mieux. Donc ça veut dire que prier, c'est quelque chose, les gens ne savent plus prier, et on leur offre quelques prières simples avec un texte biblique, ça nourrit quelque chose, ils peuvent s'adresser à Dieu. Donc c'est ainsi que nous touchons un public chrétien parfois et non-croyant aussi. Voilà un peu le sens de notre démarche. Je ne sais pas si ça répond précisément à la question que vous posiez, mais...
Bien sûr. Et la prochaine question, vous l'avez déjà partiellement répondu dans votre intervention, mais ce sera quand même l'occasion de résumer ce que vous venez de dire. Quel est le public visé par vos ouvrages? Est-ce que vous vous adressez seulement aux croyants ou à tout le monde? Vous l'avez déjà dit, mais résumez-le.
Oui. Alors, c'est vrai qu'en tant qu'éditeur, je veux m'adresser à tous. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'il faut décloisonner tout ça, l'évangile, c'est pour tous. Voilà. Et il faut arrêter d'avoir des complexes, et il faut peut-être aussi arrêter de s'exprimer dans un langage inaccessible ou bien de véhiculer des concepts que les gens en face de nous ne peuvent pas, auxquels ils ne peuvent pas accéder. Et je crois qu'il faut qu'on s'adapte pour que tous entendent. Mmh. Voilà, ça c'est une conviction très évangélique et d'évangéliste. Donc moi je veux m'adresser à tous, toutefois. Lorsque je suis libraire, je suis ici, évidemment ce que je constate, c'est que ce sont les chrétiens qui achètent des livres chrétiens, qui les offrent à leurs amis non chrétiens de temps en temps, mais je dois dire que je rencontre très peu de gens qui ne sont pas déjà chrétiens venir dans cette librairie pour acheter leurs livres, d'où la nécessité que nos livres soient présents ailleurs. Parce que il y a quand même beaucoup de livres qu'on vend ici, qui sont des traductions de l'américain, par exemple. Mmh. Et évidemment, c'est très intéressant souvent, mais culturellement, c'est pas véritablement adapté. C'est-à-dire, les chrétiens connaissent cette culture américaine et la perception et la façon dont on parle de l'évangile aux États-Unis colle pas assez bien aux chrétiens évangéliques en France. Par contre, en dehors de ce milieu-là, les gens comprennent plus trop. Ils sont perturbés par ce langage. C'est pas leur univers, c'est pas leur monde. Donc, je pense que les éditeurs chrétiens, mes collègues, devraient les uns les autres aussi, certains y ont déjà pensé, je dois dire, mais à qui est-ce que nous voulons nous adresser? Seulement aux chrétiens? Bon, peut-être. C'est un choix. Mais si nous avons un projet pour le monde, en quelque sorte, eh bien, il faut peut-être... trouver un langage que ce monde puisse entendre.
Je rappelle aux auditeurs qu'ils écoutent la radio chrétienne Ebenezer International, une nouvelle édition de Sociopod. Et puis notre invité, c'est bien M. Denis Guillaume. Nous pouvons aussi dire frère Denis Guillaume, puisque nous sommes fils du même père spirituel.
Nous sommes frères.
Frère Denis Guillaume, sans vouloir influencer notre auditoire, est-ce qu'il y a des périodes de l'année où l'on s'intéresse beaucoup plus à la lecture?
Alors, il y a en effet des périodes de l'année où on vend plus de livres, en tout cas. C'est la période de Noël. Parce que là, tout à coup, les familles se souviennent qu'elles ont des enfants et que peut-être ce serait bien de leur offrir un livre autour de la Bible. Donc, d'ailleurs, j'encourage les parents à se souvenir qu'ils ont des enfants tout au long de l'année parce qu'il y a de très bons livres pour enfants et c'est important que dès l'enfance on soit sensibilisé à l'existence de Dieu, à son amour et à la foi chrétienne, donc pas seulement à Noël. Mais c'est en effet autour de Noël que les gens offrent des cadeaux, achètent plus de livres. Est-ce qu'ils lisent plus sur cette période? Non, je pense qu'ils lisent un petit peu tout au long de l'année. On parle de la période des vacances, qui est une période propice à la lecture. Mais nos plus grosses ventes, c'est Noël.
Bien des gens considèrent la lecture comme une sorte de luxe, une affaire d'intello, d'intellectuel. Quel en est votre avis?
Oui. Écoutez, il faut apprivoiser la lecture en quelque sorte, ou alors il faut que la lecture nous apprivoise. Et là, il y a tout un travail qui est à faire. Je pense que j'ai la conviction, ou plutôt je dirais que dans ma propre existence, si je n'avais pas eu les livres, eh bien, je crois que je n'aurais pas beaucoup progressé spirituellement et humainement. Mmh. Je dois tout aux livres. Alors, il faut que les livres nous apprivoisent. Pourquoi ? La lecture, ça peut faire peur. Il y a des gros livres. C'est pas toujours passionnant. Donc, il faut commencer par des livres faciles. Il y a aujourd'hui de plus en plus de romans chrétiens qui sont traduits, qui sont très intéressants. Et bon, on peut commencer par un roman. Ensuite, on peut continuer par un livre de petit format qu'on va pouvoir aborder puis lire assez rapidement. Et après, c'est un petit peu comme une habitude. C'est-à-dire que quand on commence, si on y prend du plaisir, on ne s'arrête plus et on veut toujours autre chose de plus bon qui va traiter d'une autre question. Ouais, le livre et le chrétien, ça devrait être un compagnonnage. Les chrétiens ont déjà la Bible, qui est le livre par excellence, et donc ils ont déjà un chemin tout tracé en eux. D'ailleurs, c'est pourquoi je trouve que les chrétiens lisent quand même beaucoup, on vend beaucoup de livres. Donc je pense que par rapport à la population en général, des chrétiens de toute catégorie sociale, pas seulement les intellectuels, comme vous disiez tout à l'heure, lisent, parce qu'ils lisent déjà la Bible. Donc, à partir de là, ils peuvent accéder à d'autres livres. Simplement, alors pour certains, il y a le problème économique. Les livres, quoique pas chers, restent quand même une part du budget qui est non négligeable si on lit beaucoup. D'autres, bon ben, ils n'ont pas l'impression que le livre va leur apporter quelque chose. Alors ils vont peut-être regarder un DVD de temps en temps, ou bien ils estiment que ils ont suffisamment de nourriture spirituelle le dimanche dans leur église. Moi, je pense qu'ils devraient prendre le risque de temps en temps de se plonger dans un livre, parce que c'est pas affaire d'intellectuel. Bien sûr, il y a des livres pour intellectuels, mais le livre, ça contribue à nos constructions spirituelles et intellectuelles. Il faut que nous élevions le niveau intellectuel de la population en général. Enfin, il faut que ce niveau s'élève, parce que lorsque je lis, j'ai accès à une certaine connaissance. Ma vie s'enrichit. Je suis capable de penser par moi-même, je deviens capable de penser par moi-même. Je ne suis plus dépendant de ceux qui parfois abuseraient de moi. Le livre m'offre ça, parce que c'est un lieu de liberté. Je le prends, je le lis chez moi, je me construis, ensuite je repars au dehors, je suis un petit peu différent, je suis un peu changé, je suis un peu plus fort. Alors la lecture, évidemment, peut paraître exigeante. C'est plus facile de se poser lorsqu'on est fatigué le soir devant la télé et de n'en sortir que pour aller se coucher. Mais quel est le degré de satisfaction que tout ça nous apporte ? Je crois que la vraie joie, bien sûr, elle nous vient de toutes sortes d'exercices, comme la prière. Mais elle peut nous venir aussi de la lecture d'un livre qui va nous édifier.
Très belle déclaration de notre invité, M. Denis Guillaume. La vraie joie peut venir aussi de la lecture d'un livre qui peut nous édifier. Et c'est de l'un de ces livres que va nous parler l'artiste Richard Taupin dans son chant, choisi pour la dernière pause musicale à notre émission. Je vous souhaite une agréable écoute. Une vie, une histoire. Une histoire. Une histoire.
Une histoire. Ta parole est la richesse. Unie à l'éternité. Accessible à ma faiblesse.
est une lampe à mes pieds, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle éclaire mon sentier.
Every day, anywhere, anytime, the Digital Gospel Channel, Ebenezer International, your station.
Fidèles de la radio chrétienne Ebenezer International, nous arrivons à la fin de cette édition spéciale de Une vie, une histoire qui nous a permis de découvrir une partie du témoignage de notre frère en Jésus-Christ, M. Denis Guillaume. C'était un grand plaisir de passer en votre compagnie ces précieuses minutes à l'écoute de ce bien-aimé. Comme promis au début de l'émission, nous aurons l'occasion de vous proposer la deuxième partie de cette interview dans une édition spéciale de Sociopod, l'une des rubriques socioculturelles de votre radio. Avant de partir, comme il est de notre habitude, j'aimerais remercier tout d'abord M. Denis Guillaume qui a répondu amicalement à notre invitation pour la réalisation de ce programme. J'en profite pour saluer toute l'équipe de la librairie chrétienne C'est ici qui se trouve à Paris 7e. Je remercie également les artistes qui ont chanté dans l'émission. Commençons par Babra Kelly qui sera notre invitée dans la prochaine édition de Mikonak. Nos remerciements vont aussi vers l'artiste John Featherstone, le trio Toupin et plus particulièrement le frère Richard Toupin qui nous a autorisé d'utiliser sans problème ses productions dans le cadre de nos émissions. Sans oublier les sociétés Sephora Musique de la Vie et CDE à qui nous devons les versions instrumentales utilisées dans ce programme. Si l'émission vous a plu, si vous avez des commentaires, des suggestions ou des questions, vous pouvez nous les envoyer soit par l'adresse email de la radio francradio@podomatic.com. Je répète, francradio@podomatic.com ou directement sur notre profil Facebook tout en écoutant les émissions que nous vous proposons sur cette page. Et à vous tous, fidèles auditeurs, fidèles auditrices qui étaient branchés depuis le début de ce programme jusqu'à cette dernière minute, je vous remercie de votre écoute inconditionnelle et vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de Une vie, une histoire. N'oubliez pas, le reste de cette interview sera diffusé dans une prochaine édition de Sociopod. C'était pour vous servir, au micro et à la réalisation, votre ami podcasteur, votre serviteur en Jésus-Christ, Franck Doristil, qui vous dit une fois de plus, merci, que le Seigneur vous bénisse et au revoir. Vous venez d'écouter Une vie, une histoire sur la radio chrétienne Ebenezer International. The Digital Gospel Journal, your station. histoire. Une histoire.